France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Mercredi prochain, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réuniront à Copenhague, en sommet dit informel, et le lendemain, dans le cadre de la communauté politique européenne, ils siégeront en format élargi avec le Royaume-Uni et une dizaine d'autres pays participants. Le Danemark assure, jusqu'à la fin de l'année, la présidence tournante de l'Union. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ces aéroports ont été depuis lundi dernier et hier soir encore survolés à plusieurs reprises par des drones non encore identifiés qui ont gravement perturbé le trafic aérien. Le Kremlin affirme n'y être pour rien. On peut en douter après de multiples incursions de chasseurs et de drones russes ces dernières semaines dans l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie et de l'Estonie. Incapable de remporter en Ukraine une victoire militaire ou même des avancées décisives, la Russie chercherait-elle à déporter le conflit vers l'Ouest en vérifiant les capacités de réaction et de défense de l'OTAN? Un autre test aura lieu demain en Moldavie à l'occasion des élections législatives dans ce petit pays de moins de 2,5 millions d'habitants dont la présidente s'accroche désespérément à l'Europe. À coup de désinformation, d'achat massif de votes, ce sera un test de l'efficacité des menaces hybrides auxquelles Moscou recourt volontiers quand il s'agit de ronger à son avantage les processus démocratiques. Les Européens font donc face à une menace et à une pression accrue à l'Est de notre continent. Mais ils doivent aussi affronter à l'Ouest une offensive d'une autre nature. Mardi dernier, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump, qui dit tant aimer les Européens, nous a tout simplement promis l'enfer sous la double menace, selon lui, de l'immigration et des énergies renouvelables. Un discours manifestement destiné à encourager, une fois de plus, les mouvements populistes droite dure en plein essor dans nos pays. C'est bien une révolution culturelle que mène le président américain sur son front intérieur. Ce sont ses préceptes qu'il entend nous imposer. Quelle réponse les dirigeants européens choisiront-ils de lui apporter? En seront-ils capables ensemble la semaine prochaine à Copenhague? Ou préféreront-ils chacun à sa manière en différer l'urgence et continuer leur concours de flatterie? La volte-face du président américain au sujet de l'Ukraine, soudainement encouragé à reconquérir tout son territoire et même plus, ne semble pas les avoir convaincus. Bruxelles veut édifier un mur commun anti-drone avec l'aide de l'Ukraine. Intéressant retour des choses, et utiliser au profit de Kiev, avec quelques précautions juridiques, les fonds russes gelés dans le système bancaire européen. Faut-il y voir les signes d'une autonomie accrue vis-à-vis de Washington et vis-à-vis de Moscou? La question devient lancinante au moment où l'ordre occidental se délite. Les Européens, nos dirigeants comme nos opinions publiques, sont-ils prêts à faire face? En ont-ils les moyens? Ou préfère-t-il encore se bercer d'illusions au risque de l'affaiblissement et de la marginalisation? Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier ou pas ce matin, grâce à vous, Nicole Gniewzotto. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Frédéric Charillon, ravi de vous accueillir, professeur des universités à l'Université Paris-Cité, co-directeur du Centre géopolitique défense et leadership à l'ESSEC. Sylvain Kahn, professeur au Centre d'histoire de Sciences Po à Paris. Et Guillaume Lagan, vous enseignez vous aussi à Sciences Po les questions de défense et de relations internationales. Nicole Gniewzotto, que peut-on attendre de cette réunion mercredi prochain à Copenhague face à cette double menace? Encore hier soir, un survol de drones non identifiés sur la plus grande base militaire danoise, où sont évidemment stationnées des forces de l'OTAN. Et le communiqué ce matin nous explique que ils n'ont pas été abattus, puisque en fait, on ne peut pas, à ce stade, identifier l'origine de ces drones.
Oui, alors, si votre question, qu'est-ce qu'on peut attendre de la réunion du conseil informel la semaine prochaine, je dirais pas grand-chose.
Ah ben, ça commence bien.
Non, bien évidemment, c'est un conseil informel, c'est une règle dans l'Union européenne, donc en général, il n'y a pas de décision. Les décisions sont reportées au conseil formel. Mais ils vont bien sûr donc étudier ce que vous appelez les deux menaces, la menace à l'Est, qui est une vraie menace d'agression militaire, et la menace à l'Ouest, qui est une menace à la fois, la menace américaine, qui est une menace à la fois d'abandon stratégique, et puis de guerre idéologique. Les Américains sont partis en guerre, en tout cas l'administration Trump est partie en guerre contre le régime de démocratie représentative qui est le cœur de la construction européenne. Mais la difficulté pour les Européens, justement, c'est de tenir ensemble ces deux menaces. C'est pour ça que je pense qu'ils auront beaucoup de mal à sortir de ce dilemme la semaine prochaine, parce que pour des raisons peut-être existentielles, la menace russe apparaît plus importante aux Européens que la menace américaine. Je dis pour des raisons existentielles, parce qu'effectivement, s'il arrivait que Poutine, dans sa folie, agresse militairement, par exemple, l'Estonie ou un autre pays frontière de la Russie, il y a un risque de très clair pour les citoyens européens, donc une nécessité de se défendre militairement. Alors que quand l'Amérique finance les partis d'extrême droite européens, quand elle interfère dans, ouvertement, sans aucune honte, dans nos processus électoraux au faveur de l'extrême droite, c'est quand même embêtant, mais c'est pas une menace existentielle. Donc les Européens préfèrent la menace, enfin, préfèrent, donnent la priorité à la menace russe et donc sont prêts à accepter n'importe quoi de la part des États-Unis, parce que à l'heure où on se parle aujourd'hui, seule l'Amérique, dans le cadre de l'OTAN, est capable à la fois d'assurer la continuité de la défense de l'Ukraine et en même temps la défense éventuelle de l'Europe si un des pays européens, membre de l'OTAN, était attaqué. Et donc, ce déséquilibre entre les deux menaces fait que les Européens, malheureusement, sont prêts à avaler beaucoup de couleuvres, ce qu'ils font, pour essayer de garder l'Amérique à leur côté.
Oui, mais quand Washington demande à l'Union européenne d'accroître ses propres tarifs douaniers à l'encontre de la Chine et de l'Inde pour que Washington continue de protéger l'Ukraine, et ce, après que Donald Trump, tout à coup, est viré de bord et a dit « mais l'Ukraine est en mesure, avec l'aide de l'Union européenne, a-t-il dit, peut reconquérir tous ses territoires », il va bien falloir répondre.
Oui, il va falloir répondre, et malheureusement, la réponse sera une réponse de, comment dire, de génuflexion plutôt qu'une réponse de révolution. Encore une fois, parce que je crois que les Européens sont... C'est la première fois dans l'histoire de la construction européenne où une menace pour l'Europe n'est pas une menace pour l'Amérique. Et donc, c'est la première fois que ça existe. Les Américains ne considèrent...
Enfin, la première fois depuis la dernière guerre
depuis
mondiale.
La Seconde Guerre mondiale, oui. Mais les Américains ne considèrent pas que la Russie est une menace pour eux, pour la puissance américaine ou pour leur territoire. Et donc, ce découplage réel entre les États-Unis et l'Europe fait que les Européens, encore une fois, feront tout ce qu'il est possible pour garder l'Amérique impliquée dans leur défense. Alors, vis-à-vis de, sur le plan commercial, là aussi, on voit très bien, les Américains font, pour la première fois aussi, dans l'histoire de l'Alliance, un linkage entre le commerce et la défense, qui n'était absolument pas le cas pendant les 80 précédentes décennies, puisqu'on était, Europe et Américains, on était les plus grands adversaires sur le plan économique, en aéronautique, en politique agricole. On a eu des crises absolument majeures, des divergences majeures qui étaient portées à l'OMC avec des centaines de millions, des centaines de millions de pénalités. Mais tout ceci était à distinguer, différent de la défense qui restait le socle atlantique. Aujourd'hui, il n'y a plus de socle et donc l'Amérique utilise le chantage. Si vous n'augmentez pas vos droits de douane sur les produits chinois, ben je ne vous défendrai plus dans le cadre de l'OTAN. Ce qui fait qu'il n'y a plus pour les Européens aucun repère et malheureusement, je pense, d'autant que c'est aussi une demande des industriels européens, je pense que les Européens accepteront de faire quelque chose pour ne pas être envahis par les produits chinois comme c'est le cas depuis quelques mois.
Frédéric Charillon, votre dernier livre s'intitule « Géopolitique de l'intimidation ». Donc, on est en fait, nous autres Européens, sujets sur ces deux fronts exactement à cela, à l'intimidation.
Oui, et nous nous défendons très mal, parce que ce n'est pas du tout dans notre ADN européen. C'est-à-dire que ce retour de la force, ce retour du chantage... Et Nicole Niesotto vient d'en rappeler quelques exemples de la part des États-Unis. Cette brutalité des relations internationales, c'est quelque chose qui n'est pas européen. Nous avons défendu depuis des décennies maintenant une façon de faire de la politique. On croit au multilatéralisme, on croit au consensus, on croit à la négociation. Et nous avons en face de nous aujourd'hui, on croit à la norme sans la force. Et on a en face de nous aujourd'hui, alors d'un côté, du côté Est, comme vous disiez tout à l'heure, le retour de la force, c'est-à-dire la politique du fait accompli, et même de l'intimidation. Les drones, c'est un test, c'est une intimidation à la fois. L'intimidation, elle est quotidienne maintenant du côté russe. C'est-à-dire, ce sont des menaces chaque jour. Si jamais vous vous avisez de toucher un avion russe, c'est la guerre, etc., etc. Et puis, du côté ouest, on a une autre forme d'intimidation qui est effectivement, si vous ne faites pas tout ce que nous voulons, vous allez voir ce qu'il en coûte et on ne vous défendra plus. Bon, nous, Européens en face de ça, d'abord nous n'aimons pas ce langage de l'intimidation parce que c'est tout le contraire de ce en quoi nous avons cru pendant des années. On a cru qu'on allait pouvoir fabriquer des relations internationales débarrassées de ce type de méthode. Et voilà que ces méthodes reviennent. Et il y a pire encore, c'est-à-dire que toutes les idées auxquelles nous croyons, vous avez une série de dirigeants que une littérature sur ces questions appelle les hommes forts. C'est-à-dire effectivement, on a aujourd'hui une série de dirigeants qui veulent se présenter comme des durs, comme des hommes forts.
La testostérone.
C'est ça. C'est une espèce de virilisme, effectivement, de relations internationales. Et qui, aujourd'hui, font en sorte de présenter tout ce que nous croyons comme vraiment la dernière des naïvetés, les méthodes de loser absolu, et nous démontrent chaque... et disent tout ça, c'est terminé. D'ailleurs, M. Poutine l'avait dit, le libéralisme, c'est caduque, c'est terminé. Il y a eu une époque, mais c'est fini. Et tout ce en quoi nous croyons, ils disent, c'est vraiment... le truc de loser. Aujourd'hui, c'est le fait accompli. Vous allez voir, avec moi, ça va filer doux. Vous allez voir, moi, j'obtiens des résultats. Le reste, ce sont des palabres. C'est de la faiblesse. Alors évidemment, ça nous place dans une position extrêmement compliquée parce que, d'une part, nous n'avons pas les moyens de réagir à ces méthodes qui sont très agressives envers nous et qui convergent en plus contre nous. Et d'autre part, notre discours est dévalorisé vis-à-vis de beaucoup d'opinions publiques, y compris chez nous, d'ailleurs en Europe et plus encore dans le Sud. C'est-à-dire aujourd'hui, quand des Européens, quand des démocraties libérales prônent le consensus, ou au moins, sinon le consensus, du moins la concertation, la négociation, le multilatéralisme, vous avez aujourd'hui des opinions, des segments entiers de l'opinion publique dans le monde et même chez nous qui disent, voilà, encore des palabres, Trump, lui, il agit, Monsieur Poutine, lui, il agit. Moi, j'entends ça chez des étudiants qui nous disent, oui, mais Poutine, lui, au moins, il ne se laisse pas faire, et puis Trump, lui, au moins, il défend son pays, etc. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très mortifère aujourd'hui.
Sylvain Kahn, je compte sur vous pour nous redonner quand même un peu d'optimisme.
Écoutez, vous pouvez, parce que sachant qu'on est bien, disons, dans une différence de type vert à moitié vide ou vert à moitié plein, hein, évidemment. Disons que je rejoins tout à fait ce qui a été dit, dans le sens où, pour les Européens, aujourd'hui, ils sont confrontés, ou nous sommes confrontés, mais les dirigeants en tous les cas, sont confrontés à une espèce de choc de culture politique. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, d'une part, ce qui a, on va dire, le vent en poupe dans les relations internationales, c'est en effet l'expression de la force et de la décision, d'une espèce de décision brute, comme on le voit bien aux États-Unis, où on a un président américain qui met en scène le fait qu'il prend des décisions en se... moquant ou en ne s'intéressant pas ni au contre-pouvoir ni au processus institutionnel. Je crois que c'est ça qui caractérise aujourd'hui Trump, on va dire, dans l'écosystème des démocraties occidentales. C'est qu'il dit, on est toujours une démocratie, mais moi je prends des décisions et parce que ce qui compte, c'est de délivrer, comme on dit maintenant en franglais. Voilà, il y a ça. Et d'autre part, effectivement, comme ça a été dit également, il y a l'idée que ce qui compte, c'est la puissance. Alors, la puissance, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zaki Laïdi avait utilisé le terme de souverainisme appliqué aux relations internationales pour dire quand un pays ne se soucie plus du tout de comment est organisé le monde, mais qu'il ne s'intéresse au monde que pour obtenir des résultats par rapport à ce qu'il estimait de ses objectifs et ses intérêts nationaux.
Et des résultats à court terme.
Or, comme ça a été dit tout à l'heure par Nicole Nézotto, il y a eu pendant près de 80 ans une espèce de communauté qu'on peut appeler à la fois de valeurs et d'intérêts, qui était la communauté atlantique, où, quand bien même il y avait des différences, quand bien même il y avait une asymétrie, il y avait, on appelait ça l'Occident, tout le monde s'en rappelle, dans lequel il y avait également le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, on appelait ça l'Occident, où il y avait effectivement une convergence entre les Américains et les Européens, y compris dans l'idée que le multilatéralisme, la délibération, la régulation par le droit des relations internationales, même si les Américains le faisaient de manière peut-être un peu moins,
respectueuse.
Un peu moins respectueuse que ne pouvaient le faire les Européens, il y avait quand même une convergence, disons, sur ce paradigme commun. Aujourd'hui, effectivement, les Européens sont... Alors, ils ne sont pas complètement seuls, parce que, encore une fois, les Australiens, les Japonais, les Coréens du Sud, bref, tous les alliés des Américains dans le monde entier se trouvent confrontés au même problème, à savoir que les Américains, en tout cas l'administration Trump, mais rappelons-nous quand même qu'il a été soutenu par 50% des votants, hein, donc c'est pas Trump tout seul, c'est un parti, le Parti républicain, c'est un mouvement idéologique extrêmement dynamique qui s'appelle MAGA, Make America Great Again, et derrière c'est beaucoup d'électeurs, et si on lit la biographie de J.D. Vance que vous avez préfacée dans son édition française, Christine O'Krent, eh bien je crois que ça nous permet de toucher du doigt ce qui fait la popularité, on va dire, ou le succès populaire de quelqu'un comme Donald Trump. Et donc là, on voit bien qu'il y a une divergence, effectivement, comme ça a été dit, entre les Européens et les Américains. Les Américains disent, écoutez, nous, on ne va plus s'intéresser qu'à notre intérêt. Le monde est un gisement de ressources. Vous, les Européens, vous êtes des ressources parmi d'autres. D'ailleurs, dit Trump, dit J.D. Vance, dit également Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la défense de Trump, vous avez abusé de notre générosité pendant 80 années dans le cadre de l'atlantisme. Vous avez profité du fait que nous étions prêts à vous défendre face à l'Union soviétique pour dépenser très peu d'argent dans votre armement et dépenser beaucoup d'argent dans votre État-providence qui ne sert à pas grand-chose. Enfin, c'est un discours qui idéologiquement est très offensif. Et du coup, aujourd'hui, il y a une conception mafieuse, finalement, du pouvoir par le pouvoir américain, consistant à dire si vous voulez qu'on continue à vous protéger, eh ben, vous allez devoir payer, vous allez devoir prêter allégeance. Et par ailleurs, nous allons vous faire, comme on le disait dans le beau film Le Parrain en 3 volumes de Coppola, nous allons vous faire un certain nombre d'offres que vous ne pourrez pas refuser. Sous-entendu, si vous les refusez, nous vous laissons tomber et nous ne vous défendrons plus. Donc, alors, pourquoi est-ce que moi je vois le verre à moitié plein? Parce que je pense...
Oui, parce qu'alors franchement...
Après... Non, mais ça c'est le diagnostic, si vous voulez. Oui, mais ça c'est le diagnostic. Parce que je pense que depuis le Covid et l'agression à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les Européens ont démontré qu'ils avaient du ressort et des ressources. Et je pense que le fait que les Européens, aient, comme l'a dit Frédéric Charion, aient renoncé à la puissance depuis 1945 et 1950, c'est pas forcément un handicap. C'est-à-dire que les Européens ont fait ce choix pour des raisons extrêmement profondes, c'est-à-dire c'est quand même une rupture avec 5 siècles d'histoire, ce renoncement à la puissance. Et donc je pense qu'il n'y a pas de raison pour que les Européens se disent aujourd'hui « Ah bah maintenant, on va renouer avec la puissance, on a laissé tomber les empires coloniaux, on a été battus dans les guerres d'indépendance, on a eu 60 millions de morts pendant une guerre civile de 1914 à 1945. Tout ça, maintenant, on considère que finalement la puissance c'était bien à nouveau. Non, les Européens ont bâti des outils, une boîte à outils, une manière de faire, d'influencer le monde et de se défendre, qui ne passe pas par la puissance. Et je pense que bah, ils sont en train, certes lentement, ça paraît toujours trop lent, d'utiliser cette boîte à outils pour apprendre à se défendre face à une puissance russe très agressive et à une puissance américaine qui cherche à les mettre sous emprise. Et si les Européens sortent de ce sentiment d'emprise, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à, dissuader les Russes de les agresser.
Guillaume Lagan, est-ce que vous pensez que les Européens sont en mesure... on voit les efforts, effectivement, de construire une sorte de défense européenne commune, mais est-ce que vous pensez que les Européens en sont capables ?
Est-ce que je pense que les Européens en sont capables ? Non, je ne pense pas que les Européens en soient capables. Alors, ce n'est pas du tout une marque de pessimisme de ma part, mais c'est plutôt... l'analyse des relations historiques qu'a bien décrite Sylvain Cade, c'est-à-dire du rapport historique que les Européens ont avec le fait guerrier. Bon, il y a trois choses que je voudrais dire par rapport aux analyses qui ont été menées jusqu'ici et que je partage dans l'ensemble. C'est peut-être pour les nuancer. Je pense d'abord que sur le plan du rapport que nous avons eu avec les Américains, il ne faut pas non plus voir les 80 années qui nous séparent de 1949, c'est-à-dire de la création de l'OTAN, comme un long fleuve tranquille. Je rappelle quand même que les Américains nous ont mis plus que des bâtons dans les roues dans nos guerres coloniales. En 56, la crise de Suez, par exemple, c'est quand même le moment où les Américains nous disent « Nous ne vous protégeons pas des frappes nucléaires soviétiques si vous continuez à intervenir en Égypte ». Ils le disent aux Français, ils le disent aux Anglais, qui vont d'ailleurs en tirer des conséquences différentes. En 1970... c'est les premières manifestations d'agacement des Américains qui disent « Vous ne dépensez pas assez pour votre défense, et si ça continue, ça va poser problème ». D'ailleurs, je rappelle que, vous savez, un des ressorts de la sortie gaulliste de l'OTAN, c'est l'idée que les Américains ne protégeront pas l'Europe, que les divergences, en fait, entre les deux rives de l'Atlantique déboucheront sur... Une remise de l'Europe en fait à l'URSS, vous vous rappelez, c'est ce que dans ce qu'on appelle la riposte.
Oui, mais pardonnez-moi, c'était une sortie très relative.
Écoutez, c'est une sortie très relative, on le voit comme ça aujourd'hui. En 1966, monsieur Mitterrand disait c'est un coup d'État contre la sécurité européenne que la sortie de on le mesure pas aujourd'hui, mais
oui,
la sortie
mais là,
de milliers de soldats américains,
nous avons changé
d'important.
Certes, mais aujourd'hui, il y a des milliers de soldats américains sur notre continent. Donald Trump a d'ailleurs promis au président polonais, qui est de son bord idéologique, de renforcer cette présence militaire sur le continent. Donc, est-ce que la construction d'une défense européenne, on a vu le Danemark qui est en première ligne aujourd'hui, qui est un tout petit pays, hein, de 6 millions d'habitants à peu près. On voit le Danemark préférer acheter des armements européens plutôt que de continuer à acheter de l'américain. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, Guillaume Lagan, des signaux qui prouvent que les Européens ont compris qu'il fallait évidemment dépenser plus, quitte à continuer à acheter de l'armement américain, mais aussi construire ensemble des outils de défense communs.
Oui, l'exemple que vous donnez est vrai, c'est-à-dire que les Danois, alors qui ont en plus une situation particulière, puisque on ne l'a pas précisé, mais M. Trump a des convoitises sur le Groenland, et c'est quand même un sujet majeur à Copenhague, ont préféré acheter un système de défense antimissile franco-italien plutôt que... un système américain. Donc ça, c'est évidemment une évolution. Maintenant, ça, si vous voulez, c'est un événement sur un ensemble qui est quand même beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire que les quasi 100 000 soldats américains qui sont en Europe sont toujours là, les bases américaines sont là, et surtout les grands États européens. Là, je ne parle pas du Danemark, mais l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie se sont quand même engagés, par exemple, dans l'achat de matériels américains comme le F-35. Qui sont extrêmement coûteux, qui les engagent en fait pour des décennies dans l'alliance avec les États-Unis. Et je crois que quand on dit les Européens, il faut faire attention à ne pas mélanger la situation qui est la nôtre, celle de la France, c'est-à-dire d'un pays qui a quand même la capacité nucléaire, qui a quand même conservé un outil militaire qu'il a beaucoup utilisé en Afrique et ailleurs, et des Européens qui n'ont ni la capacité nucléaire, ni cette capacité d'intervention. Donc là aussi, quand on dit les Européens, gardons-nous peut-être de projeter ce qui est une conception française sur l'ensemble de l'Europe.
Oui, d'autant qu'on voit que Dassault met des bâtons dans les roues, si j'ose dire, de l'avion, de ce fameux avion du futur que la France est censée construire avec l'Allemagne et l'Espagne. Et donc voilà, on voit que rien n'est simple. Néanmoins, Nicole Gnesotto, on voit aussi, il y a eu une réunion dans ce sens hier, par visio, comme on dit aujourd'hui, pour que les Européens construisent ensemble un mur anti-drone. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce mur anti-drone serait construit avec l'aide de l'Ukraine, qui a tellement progressé dans cette technologie que ce sont eux, désormais, qui apporteraient leur concours.
Oui, il y a l'évolution militaire du conflit est quand même très intéressante. Si vous souvenez-vous, il y a 3 ans, en 2022, la grande bataille, la grande dispute entre les Français et les Allemands, c'était de savoir qui allait construire le meilleur bouclier antimissile. Les Allemands proposaient un système que 14 pays européens ont accepté. Les Français étaient tout seuls, ont réussi à avoir quelques alliés. Mais la grande bataille, c'était la défense contre les missiles. Aujourd'hui, le problème, et donc on n'a pas vu venir que le grand sujet, ce serait la défense contre les drones. Et donc avec un peu de retard, alors qu'on sait que les drones sont utilisés quand même en Ukraine depuis au moins 2 ans, on essaye de construire, non pas une défense antimissile, mais une défense anti-drone. C'est donc l'idée, le mur de drones, et même avec cette idée d'une alliance drone avec l'Ukraine. Là aussi, ça montre à quel point l'évolution militaire est extraordinairement rapide. Il y a quelques années, nous aidions l'Ukraine, nous lui envoyions tous les armements qu'on pouvait,
etc. On continue, hein ?
Oui, parce qu'elle était véritablement terrassée par la surprise de cette menace. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui nous apprennent à nous défendre contre les drones parce qu'ils ont bricolé ils ont acquis une expérience dans le combat, qu'ils ont réussi à monter une industrie d'armement qui fait pâlir les industries européennes. Et donc, avec notre argent, bien sûr, mais avec leur ingéniosité, ils sont devenus leaders maintenant dans la lutte anti-drone. Donc c'est pour ça qu'on les associe à ce qui pourrait être un mur de drones européens. Donc tout ça montre à quel point les évolutions à la fois militaires vont vite, les évolutions politiques aussi. Du coup, l'Ukraine est pratiquement intégrée dans la défense européenne aujourd'hui, comme si elle était membre d'un pays de l'OTAN. Et donc ça permet quand même d'avoir un peu de positif, si quand même il faut en chercher. Moi, je crois que la réponse des Européens, elle doit être double. Elle doit être très ferme vis-à-vis de l'administration américaine et vis-à-vis de la menace russe, en faisant ce que les Américains nous demandent de faire, c'est-à-dire bâtir notre autonomie stratégique. Le secrétaire d'État à la défense américain n'arrête pas de nous dire « Mais vous savez, on ne sera pas toujours là, allez-y, construisez votre mur atlantique. » Mais en même temps, et ça je crois que c'est très important, et on ne le fait pas, on a la priorité sur la défense, mais en même temps, ce qu'on doit faire, c'est répondre à nos opinions publiques. Parce que si Trump a une telle victoire aux États-Unis, c'est que la crise n'est pas simplement une crise stratégique entre l'Europe et les États-Unis, c'est une crise profonde de notre système de la démocratie. Elle est aux États-Unis, elle est chez nous également. Et si on ne répond pas, il y a des sondages qui montrent que 40% de nos populations ne croient plus que la démocratie soit un système qui puisse délivrer justement du bonheur pour eux. Et donc, si on ne répond pas en même temps à cette angoisse de nos opinions publiques sur l'échec de la démocratie, alors on donne une carte blanche aux forces populistes et d'extrême droite en Europe. Donc je crois que les Européens doivent tenir ensemble à la fois la défense et construire effectivement une défense autonome et la preuve que la démocratie marche. Mais pour ça, il faut faire des sacrifices sur le plan économique, il faut redistribuer l'argent autrement, il faut arrêter ce phénomène que tout le monde nie aujourd'hui, en tout cas les élites nient, mais qui est une réalité, qui est la paupérisation des classes moyennes aux États-Unis comme en Europe. C'est cette paupérisation qui crée le risque de fascisme en Europe. Donc c'est à ça qu'il faut répondre par des politiques qui sont malheureusement, je suis désolée de le dire, mais qui sont peut-être plus à gauche que ce qu'on nous présente aujourd'hui.
Sylvain Kahn, il y a un tout petit pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui
pas encore,
qui y aspire. D'ailleurs, sa candidature a été acceptée officiellement. C'est la Moldavie. Donc c'est tout petit et ils ont accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens qui évidemment ne vont pas participer demain au vote pour renouveler le Parlement. C'est la quatrième fois que les Moldaves doivent voter dans différents modèles. La dernière fois, c'était pour l'élection présidentielle qui a été remportée de justesse par la présidente pro-européenne, Madame Sandu. Et là, on voit la panoplie des outils que le Kremlin utilise, évidemment, pour influencer cette élection.
Bien sûr. Et parce que, effectivement, cette Moldavie, qui est... petite par sa superficie et par son nombre d'habitants, et d'une certaine manière totalement illustrative du bras de fer devenu conflictuel entre la vision, la représentation de la géopolitique par Moscou et Poutine, et la représentation du projet géopolitique qui est celui des Européens. Celui des Européens consistant à dire, eh bien, en effet, nous, maintenant, nous fonctionnons entre nous par la coopération. S'il y a des problèmes entre nous, nous les réglons par le droit et la délibération, alors que du côté de Moscou, clairement, on règle les problèmes par la violence et par le conflit. Et du coup, un pays comme la Moldavie est très attiré par l'Union européenne, et l'Union européenne a accordé à la Moldavie le statut de pays candidat, donc le processus d'adhésion est en cours. Tandis que, comme vous venez de le rappeler, Christine Ockrent, la Russie considère qu'elle elle peut utiliser tous les moyens coercitif et violent, symbolique et peut-être même militaire, en tout cas ils font planer le doute, pour conserver la Moldavie dans ce qu'elle appelle, dans ce que Moscou appelle son aire d'influence.
Alors, et donc c'est quoi? C'est désinformation, achat de vote?
C'est désinformation, achat de vote, c'est usine à trolls sur les réseaux sociaux. On se rappelle qu'un candidat totalement inconnu du grand public et qui ne faisait pas campagne avait été arrivé avec un très très bon score au premier tour et que le Conseil constitutionnel avait dû...
En Roumanie,
hein, voilà, qui est le pays voisin de la Moldavie. Et donc, la Russie essaye d'utiliser le même type de processus pour cela. Alors, vous avez évoqué Maia Sandu, c'est très intéressant. Elle a fait un discours au Parlement européen le 9 septembre dernier. Et je trouve que ce qui est intéressant par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est son changement d'argumentation. Jusqu'à présent, son argumentation consistait à dire, regardez, la Moldavie est un pays petit mais robuste, qui résiste. Si vous nous prenez dans l'Union européenne, vous n'avez... ça vous apportera énormément de gains. Et là, le discours qu'elle a fait était un discours défensif, hein, comme en écho au titre de notre émission d'aujourd'hui, puisque Maia Sandu a dit en substance, le 9 septembre devant le Parlement européen, si vous n'arrivez pas à défendre la démocratie en Moldavie, alors du coup, où pourrez-vous la défendre? Vous ne serez même pas capable de la défendre chez vous.
Oui, mais enfin, en principe, nous ne faisons pas de désinformation.
Non.
Et nous n'achetons sûrement pas des bulletins de vote moldaves.
Non.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, en tout cas, dans la voix de Maia Sandu, il y a l'idée que les Européens doivent être capables, alors les Européens, l'Union européenne et ses États membres, doivent être capables de contrer à la fois le narratif russe qui peut avoir de l'influence sur une partie de l'électorat moldave et européen, et d'autre part, de contrer très concrètement la guerre digitale et numérique.
Et même plus, il y a un papier très intéressant dans Libération ce matin, sur un Moldave qui raconte en fait comment c'est lui qui a financé cette opération Main Bleue, vous vous souvenez, pour activer l'antisémitisme dans notre propre pays, en apposant des mains sur différents lieux, etc. Et donc, il y a aussi le procès de cet oligarque moldave qui vient d'être extradé par les Grecs. Il s'appelle Plahotniuc, et comme il faut utiliser les outils contemporains, il y a une très bonne série moldave, paraît-il, qui explique les aventures de ce monsieur Plahotniuc, dont le seul nom fait déjà penser à à Tintin. Mais Sylvain, pardon, je vous ai interrompu, mais voilà, quels sont les outils avec lesquels on peut encourager demain les Moldaves à résister à l'emprise russe.
Il y a deux choses. Il y a, comme vous dites, des outils. Et dans ces outils, il y a quand même toute une panoplie, toute une boîte à outils qui est progressivement mise en place dans les États membres. Et là, la Commission européenne essaie de jouer son rôle de coordination consistant, en France par exemple, on a Viginum, on a l'ANSSI, c'est-à-dire un certain nombre d'agences et d'agents de l'État dans différents types de secteurs qui vont du renseignement au renseignement économique en passant par la défense pour contrer sur le terrain, disons, de la propagande numérique, ce que font les Russes. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a effectivement, comme le disait tout à l'heure Nicole Niesoto, il y a les politiques publiques, l'évolution de la société. Et si, en effet, les gens ou une majorité de gens se sentent délaissés, abandonnés ou sont mécontents de la façon dont ils vivent, c'est sûr qu'ils sont plus sensibles aux sirènes, disons, illibérales qu'à l'idéologie de la démocratie représentative et du libéralisme. Bon, et donc là-dessus, l'Union européenne, eh bien, disons, elle mobilise ses instruments. Dans le cadre de la politique de voisinage, elle travaille beaucoup à la Moldavie, elle essaye de soutenir la société civile, de soutenir la structuration d'un espace politique de type libéral. Voilà, après, bien entendu, il faut qu'il y ait également un développement de l'économie, donc de l'innovation. Et ça, si j'ose dire, ça dépend beaucoup aussi de la société elle-même. Qu'est-ce qui fait
que... Oui, mais enfin, les malheureux Moldaves, ils n'ont pas d'énergie. Donc, il y a un chantage à l'électricité qui est fait depuis la Transnistrie, qui est donc cette espèce de bande de territoire qui est complètement sous contrôle russe. Et leur niveau de vie a baissé, donc, en 3 ans.
Ben oui, ben comme le niveau de vie de beaucoup d'Européens par ailleurs, et si, enfin c'est pour dire que c'est extrêmement difficile et que effectivement il y a des évolutions sociales dont parle très bien Peter Turchin par exemple dans son dernier livre sur le chaos qui vient, qui fait que s'il n'y a pas une volonté collective de tous les segments de la société pour considérer que il faut effectivement mieux partager les fruits de la croissance, c'est difficile de résister à un certain nombre de sirènes illibérales.
Frédéric Charillon, il va aussi y avoir des élections en République tchèque la semaine prochaine, où on voit un autre oligarque, M. Babiš, qui a déjà été au pouvoir. Alors lui, il est anti-Poutine, mais...
Viktor Orban l'était aussi il y a longtemps.
Oui. Et justement, ce monsieur Babiš est proche de Viktor Orban, comme d'ailleurs Donald Trump, qui dit prendre conseil auprès d'Orban pour savoir ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, est-ce que nous autres, plus à l'ouest, en Europe, nous continuons à nous bercer d'illusions?
Oui, on a du mal à rentrer dans une phase, on va dire, contre-offensive face à tout ça, parce que bah, d'abord, il y a quelque chose de structurel qui est difficile à gérer, c'est que nous sommes des sociétés ouvertes, et que nous avons de plus en plus en face de nous, c'est le cas de la Russie, mais ça commence à être le cas de la Hongrie et d'autres pays, des sociétés beaucoup plus fermées, c'est-à-dire que la réciprocité, si je puis dire, ou la contre-attaque devient difficile, parce qu'on a des acteurs extérieurs qui, chez nous, dans nos sociétés, ont une marge de manœuvre assez importante, ou alors il est très rare qu'on prenne des décisions fortes quand on a fermé, par exemple, qu'on a interdit la chaîne RT, Russia Today, après l'invasion de l'Ukraine. C'est des choses qu'on arrive à faire, mais d'une manière générale, on est quand même structurellement en position de faiblesse parce que nous avons une liberté de parole, nous avons des médias libres, et donc ça donne un boulevard véritablement à des entreprises extérieures pour venir nous déstabiliser. Et nous, en retour, c'est difficile de faire passer notre message dans des pays où les médias sont totalement sous contrôle. Donc ça, c'est effectivement le premier problème. L'autre problème, c'est que nous avons effectivement des élections qui, dans la période moderne, se jouent en grande partie sur les réseaux sociaux, lesquels réseaux sociaux sont aussi un terrain de jeu effroyable pour toutes les manipulations extérieures. Et donc, c'est très difficile pour nous de nous défendre contre cela. C'est d'ailleurs ça qui, c'est d'abord sur la question électorale que les Européens ont pris conscience de ces stratégies d'influence et de ces guerres d'influence. On se souvient quand même d'une époque où quand on disait il y a des influences extérieures, il y a des tentatives de déstabilisation, ça, vous aviez quand même une grande partie des gens qui disaient non, c'est de la paranoïa, vous exagérez, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Il y a eu un tournant, c'est autour des années 2016, parce qu'on a eu d'abord le Brexit, on a eu l'élection de Donald Trump, on a eu plusieurs cas de figure où on s'est dit peut-être que là, quand même, il y a eu une stratégie extérieure, russe en l'occurrence, pour soit favoriser un candidat, soit ou un résultat sur le Brexit, soit en tout cas démontrer que la démocratie c'est le chaos, qu'on n'arrive même pas à compter les voix, que celui qui a perdu refuse sa défaite, etc. Et ensuite, c'est quelque chose que nous avons vu de plus en plus. C'est-à-dire, et là, on le voit dans une autre Europe, celle de l'Europe orientale, où on voit les uns après les autres des pays qui sont véritablement victimes de déstabilisation extérieure et avec un certain succès. Vous rappeliez tout à l'heure le cas de la Roumanie où un parfait inconnu arrive en tête du premier tour et il faut annuler l'élection pour réussir à régler le problème.
Et tout ça avec des algorithmes qui sont évidemment fabriqués par les GAFAM américains.
Oui, mais qui sont parfaitement utilisés par aujourd'hui les régimes autoritaires. Et c'est ça, je crois, le piège qui s'est un petit peu refermé sur nous. On se souvient des années 90, quand le vice-président américain Al Gore, à l'époque, annonçait les autoroutes de l'information, c'est comme ça qu'on appelait Internet à l'époque, avec la conviction que c'était quelque chose qui allait faire triompher la démocratie libérale, la liberté d'expression, et que les régimes autoritaires allaient être submergés par ce flot de liberté d'expression. Et les régimes autoritaires, à la grande surprise de beaucoup d'observateurs, ont réussi à parfaitement retourner cette arme comme dans un effet boomerang pour en faire des armes contre les sociétés ouvertes en se barricadant, derrière des tas de mesures pour fermer leur espace médiatique, faire des grandes murailles médiatiques, comme on dit ailleurs en Chine, tandis que nous sommes toujours très vulnérables. Et aujourd'hui, l'Europe, elle a ce problème. Alors, c'est pas perdu pour autant, parce que je crois qu'il y a une demande chez le public. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de jeunes, notamment, sont très vulnérables à tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux en termes de désinformation. J'en suis pas si sûr. Je pense qu'il y a une demande de vérité, ou en tout cas d'information alternative ou d'information peut-être de vérité, pas n'importe quoi. Quelque chose qui ne soit pas le politiquement correct habituel, mais il y a une demande. Et je crois que les démocraties ont là une carte à jouer, parce qu'on n'a pas besoin de mentir. On disait tout à l'heure, on ne sait pas du tout notre méthode de faire de la désinformation ou d'acheter des bulletins de vote. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de faire ça. Je crois que le fait de dire la vérité, une vérité prouvable, une vérité qu'on peut vérifier, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut marcher. On n'a pas besoin de mentir, si vous voulez, pour répondre au régime autoritaire. Au contraire, il y a beaucoup de vérités qui les dérangent énormément et que nous pouvons tout à fait diffuser. Et là, nous restons fidèles, évidemment, à notre méthode démocratique. Les médias informent, nous donnons des vérités. C'est pas évident, mais je crois qu'il y a quand même un petit couloir à explorer là.
Guillaume Lagan, est-ce que vous êtes d'accord? Ce petit couloir existe, et donc, dans nos pays européens, on peut répondre en fait aux encouragements manifestes prodigués autant par Moscou que maintenant par Washington, c'est paradoxal, mais c'est ainsi, vis-à-vis de courants populistes qui ne partagent pas les mêmes valeurs démocratiques.
Votre question, c'est est-ce que l'Europe a les moyens d'affirmer son influence, c'est cela ?
Oui, enfin, est-ce que nous pouvons continuer à défendre des valeurs démocratiques dont on peut penser qu'elles sont quand même très majoritairement partagées à l'ouest de notre continent, vis-à-vis de cette convergence paradoxale entre Moscou et Washington, si on force le trait?
Je m'interroge, parce que comme on est dans un système international qui, on l'a dit, est en train d'évoluer, avec un retour à la politique de force, c'est l'image en vogue, hein, rester l'herbivore quand on est entouré de carnivores, ça n'est pas complètement évident. Et donc, même si c'est complètement contraire à son ADN, en tout cas récent, l'Europe sera peut-être amenée à revenir vers une forme de réel politique. On sait que la Commission se veut géopolitique. Bon, dans géopolitique, il y a quand même l'idée que la force doit être utilisée. Dans les exemples qu'on a pris, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est celui de la Moldavie. J'observe, par exemple, qu'on a toute une aide militaire maintenant vis-à-vis de l'armée moldave, alors qui est toute petite, hein, et l'objectif, c'est justement qu'elle redevienne dissuasive vis-à-vis de la Transnistrie, où je rappelle que stationne une petite armée russe. Il y a aussi l'idée que le soft power européen, c'est-à-dire l'aide au développement, l'aide financière, puisse venir défendre nos intérêts. Et là, on le fait aussi en Moldavie, en essayant d'aider ce régime à acheter son énergie un peu moins chère pour améliorer la situation. Vous avez dit qu'elle n'était pas bonne, et ça, c'est une des raisons de l'insatisfaction de certains Moldaves. Et puis après, je crois que l'Europe ne s'interdit pas des méthodes qui sont discutables et discutées. L'élection présidentielle en Roumanie, elle a effectivement été annulée par la Cour constitutionnelle. Vous savez que dans ce pays, ça déclenche beaucoup de discussions, y compris juridiques. Et s'agissant de l'élection en Moldavie qui se tient demain, là aussi, il y a pas mal de débats, parce que vous savez que la Moldavie est un pays qui a perdu à peu près le quart de sa population depuis 90. Beaucoup de gens sont partis travailler à l'étranger, certains à l'ouest, d'autres en Russie. Et là, la décision du gouvernement moldave a été de ne pas ouvrir de bureaux de vote. En fait, en Russie, vous n'avez qu'un seul bureau à Moscou, alors qu'en Europe de l'Ouest, beaucoup de bureaux de vote ont été élus. Alors là aussi, ça ont été désignés. Ça, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est pas complètement évident? Et en même temps, c'est parfaitement légitime, je pense, de la part de l'Ouest, de la part de l'Europe, de se défendre et peut-être aller vers les méthodes que nos adversaires nous imposent. Donc, vous voyez, ça pose une vraie question de fond. C'est est-ce qu'on peut rester une blanche colombe dans un monde de rapaces? Tout à l'heure, Sylvain Kahn parlait de méthodes mafieuses. Il a raison. Je pense que les relations internationales, la caractéristique des relations internationales, c'est que vous n'avez pas de police, vous n'avez pas de juge. Vous êtes obligé de vous défendre vous-même. Et donc, la question de savoir si on a les capacités à se défendre nous-mêmes, moi, je le crois. La divergence que j'ai avec lui, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'on se défendra mieux entre occidentaux, c'est-à-dire en conservant un lien avec les États-Unis, qu'en étant parfaitement isolé en tant qu'Européen.
Nicole Gnazzotto, se défendre mieux avec les États-Unis, c'est aussi disposer de davantage de moyens. Il y a un développement très intéressant, me semble-t-il. Depuis des mois maintenant, on s'interroge sur l'utilisation ou non des 176 milliards de fonds russes qui sont gelés dans ce système qui s'appelle Euroclear, qui est un système de compensation entre banques centrales, je crois. La Commission européenne aurait trouvé le moyen d'utiliser non seulement les intérêts de ces fonds, mais les fonds eux-mêmes, en souscrivant en fait un emprunt auprès d'Euroclear, c'est-à-dire que juridiquement, il n'y aurait pas de mise en péril du système lui-même. Donc la Commission souscrirait un emprunt et l'Union pourrait donc disposer de ces 176 milliards pour aider Kiev de façon beaucoup plus massive, et notamment pour commencer à reconstruire, dans la mesure où la situation sur la ligne de front à l'est, où la Russie revendique ce matin la prise de 3 villages de plus, bon, dans la mesure où la situation militaire le permet.
Oui. Alors, je vais répondre, mais si vous me permettez, je voudrais juste faire une nuance sur ce qui vient d'être dit dans la lutte entre ingérence et démocratie. Je pense qu'au nom de la démocratie, il ne faut pas interdire à nos citoyens de penser autrement que nous. Sous prétexte qu'il y a des ingérences russes et américaines, on ne peut pas interdire aux gens...
Non, mais ça, personne, personne ne le dit.
Il y a un vrai risque, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut répondre aux aspirations et aux inquiétudes de nos opinions qui ne sont pas manipulées par Moscou, mais qui malgré tout ne votent plus démocrate. Je ferme la parenthèse, mais je voulais absolument le dire, parce que la lutte contre l'ingérence peut être aussi une façon de dire que voter populiste ou voter extrême droite est illégal. Non, ça n'est pas vrai. Dans nos démocraties, on peut ne pas aimer la démocratie, c'est ça que je veux dire.
C'est d'ailleurs l'argument des Trumpistes, oui, qui nous disent à nous, c'est une honte, puisque vous interdisez en fait de penser ainsi.
Mais voilà, maintenant sur l'utilisation des avoirs russes, alors c'est effectivement à peu près 170 milliards d'euros, c'est à peu près l'équivalent du budget européen par an. Par an, c'est 160 milliards le budget européen, donc c'est beaucoup d'argent. Et la difficulté, c'est que, alors autant utiliser l'intérêt de ces avoirs ne pose pas de problème, autant utiliser ces avoirs, c'est un risque pour l'euro et pour l'ensemble du système financier international, parce que ça veut dire que les investisseurs étrangers, quels qu'ils soient, les fonds souverains ou des investisseurs souverains étatiques, n'auraient plus confiance dans l'euro s'ils achètent... des euros et que, au bout de 5 ans, on les prend, on les gèle pour les donner à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un vrai problème de stabilité du système financier mondial. Maintenant, l'idée, si je comprends bien, de la Commission, c'est pas d'utiliser tout les avoirs russes. C'est simplement une partie de ces avoirs sont des obligations qui arrivent à échéance. Mmh. Et donc, l'idée, ce serait de les racheter, de les réinvestir, mettons la moitié par exemple, mettons 100 milliards, de les réinvestir et donc d'emprunter sur la scène mondiale. Et de cet emprunt serait donné à l'Ukraine sous forme de prêt. L'Ukraine rembourserait ensuite, à la fin de la guerre, aux Russes, moins les réparations que les Russes devraient payer pour la reconstruction de l'Ukraine.
Donc il y a une protection juridique,
si je comprends bien, parce que de ce que je sais, le projet est encore quand même assez embryonnaire. Ça n'a pas été complètement validé.
Non, c'est en cours. Voilà, je crois qu'il y a des discussions la semaine prochaine.
L'idée serait ça. Ce serait à la fois de respecter la propriété, puisque l'argent resterait aux Russes. C'est simplement un emprunt qui serait fait à partir d'une partie de leur somme, et de respecter également la question des réparations de guerre qui se poseraient après la guerre. Maintenant, est-ce que ça prouve quoi ? Ça prouve premièrement que les besoins de l'Ukraine, que ce soit des besoins militaires ou des besoins en termes de reconstruction, ou même tout simplement des besoins de résilience, ça prouve que ces besoins sont infinis. Indéfini. Et que même si on arrivait à utiliser ces avoirs russes, à mon avis, ça ne réglerait pas la question, parce qu'on ne voit pas, à l'heure où on se parle aujourd'hui, de perspective d'arrêt de la guerre à court terme. Et donc, ça oblige les Européens à réfléchir, non pas simplement à court terme sur les 160 milliards, mais sur un processus éventuellement de très long terme d'aide à la résilience de l'Ukraine. Et ça, c'est une question qui est autrement difficile, parce que quand on voit les négociations qui ont cours en même temps entre les 27 sur le prochain budget de 7 ans de l'Union européenne, on peut être très inquiet.
Et aussi l'inquiétude vis-à-vis d'importations de produits agricoles ukrainiens à des tarifs préférentiels.
Qui mettent la Pologne et la France, d'ailleurs, dans un état de colère dont on verra peut-être bientôt les manifestations dans les rues. Donc, la question du financement de l'aide financière à l'Ukraine, c'est une question qui, à mon sens, devrait être intégrée dans le budget européen. Or, le budget européen, depuis qu'il existe, depuis, je ne sais pas, peut-être je parle sous votre contrôle, depuis tel qu'il est construit avec ses grands chapitres, alors il y a un grand chapitre qui est l'Union et dans le monde, mais il n'intègre pas les dépenses d'aide à un pays en guerre. Or, je crois qu'il faudrait l'intégrer dans le budget, non seulement augmenter le budget, qui devrait passer, à mon sens, à au moins 2% du PIB, et non pas à 1 comme il est, mais intégrer l'aide à l'Ukraine dans la dimension budgétaire, en diminuant d'autres postes, par exemple. Parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver, admettons qu'on puisse utiliser les 100 milliards d'avoirs russes, on va se retrouver dans 2 ans avec exactement le même problème et absolument plus aucune source de financement possible pour la résilience de l'Ukraine. Donc ce que je propose, c'est vraiment une révolution pour les États membres, c'est d'accepter non pas seulement d'augmenter le budget européen, mais dans le budget européen, d'intégrer l'aide à l'Ukraine, d'ailleurs puisque l'Ukraine va être un membre de l'Union bientôt, d'intégrer une aide financière colossale à l'Ukraine. Et malheureusement, l'accord qu'on vient de signer avec les Américains, où on est tombé d'accord pour investir 600 milliards d'euros aux États-Unis au lieu de les investir en Europe, malheureusement, c'est quand même un très mauvais signal.
Frédéric Charillon, ça veut dire qu'en fait, et vous avez tous les quatre utilisé cette expression de l'ADN européen, ça veut dire que notre ADN serait transformable ou pas. On sait que l'ADN ne peut pas l'être, mais rêvons un peu.
On a changé de monde, donc il faut aujourd'hui changer notre vision du monde, et c'est peut-être là qu'on a un peu un temps de retard en Europe. Nous avons du mal à accepter que nous sommes sortis d'un monde qui était plus confortable. L'Europe a vécu pendant très longtemps dans l'idée, à l'époque on disait que nous étions dans un monde post-tragique. C'était une expression un petit peu stupide, mais enfin, on y croyait beaucoup. C'est-à-dire que voilà, les relations international n'était plus brutal, n'était plus tragique, en tout cas pas pour l'Europe. Et on se définissait comme ce qu'on pouvait appeler un tiers stratégique, c'est-à-dire qu'on était là pour aider les autres à sortir de la guerre, à rétablir la paix, mais nous, naturellement, ça ne nous concernait plus. Nous sommes un continent pacifique où nous étions tout à fait tranquilles, et sur le flanc est, puisque l'Union soviétique avait disparu, donc tout allait bien, et là, sur le flanc sud...
On était vraiment devenu pacifique entre nous, ça il faut...
Entre nous,
il faut pas l'oublier,
absolument.
Oui, non, mais c'est très important.
Non, absolument.
C'est très important, il n'y a plus de guerre en Europe.
Mais dans les années, on va dire, d'après guerre froide. D'après guerre froide, on se disait à l'Est, tout va bien. Et au Sud, rien de nouveau, pour le coup. C'était plutôt au Sud qu'il n'y avait rien de nouveau, parce qu'on avait des régimes politiques qui étaient là depuis une éternité, qui ne bougeaient plus. Tout ça a volé en éclats. D'abord parce que la Russie est redevenue agressive. Il y a eu le discours de Poutine à Munich en 2007. Il y a eu l'invasion de la Géorgie en 2008. Ensuite, l'annexion de la Crimée, la déstabilisation en Ukraine en 2014. Et évidemment, en 2022, l'invasion complète de l'Ukraine. Au Sud, il y a eu les printemps arabes de 2011. Il y a toujours... Et effectivement, ces drames horribles au Proche-Orient. Donc, nous avons redécouvert que non seulement le monde était tragique, mais qu'il était tragique très très proche de nous, très près de nous. Donc, on est obligé aujourd'hui de changer de logiciel. Il y a quelques mois, le président Macron disait il faut qu'on se rende à l'évidence. C'est un monde dans lequel nous sommes protégés par les Américains, nous sommes approvisionnés en énergie à bon marché par les Russes, et nous avons des débouchés commerciaux fabuleux et tout à fait indolores avec la Chine. C'est terminé. Et je crois que ça nécessite chez nous une prise de conscience qui a lieu, mais qui est lente et qui n'a pas encore tout à fait infusé partout. Et c'est douloureux pour nous, parce que nous étions tellement contents de dire à nos opinions publiques les dividendes de la paix, etc., etc., que là, il faut maintenant que nous leur disions il faut serrer la ceinture, il faut se préparer à tout. Et on voit bien que ça provoque en interne, dans nos sociétés, des réactions très dures, avec des gens qui continuent de dire n'importe quoi, c'est de la dramatisation, c'est pour nous faire peur, c'est pour des raisons électorales. C'est très difficile, après toutes ces années de tranquillité et de croyance dans le poste tragique avec beaucoup de guillemets, de dire à nos opinions, quand bien même nos décideurs en seraient convaincus, c'est très difficile de faire passer le message à des sociétés qui ont été longtemps habituées à un certain confort.
Ça veut dire, Sylvain Kahn, le mot de la fin, que nos opinions publiques sont en avance, d'une certaine manière, avec nos propres interrogations par rapport à nos systèmes politiques et surtout par rapport à nos classes politiques. Oui. Il me semble qu'en France, c'est absolument évident.
Ce que ça veut dire, c'est que, puisqu'on est toujours en démocratie représentative, que ça doit devenir, et que ça devient de fait, votre émission le prouve, un sujet de délibération. Je veux dire, après tout, collectivement, on a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire si on veut être autonome et indépendant? Voilà. Ou bien est-ce qu'on préfère être sous emprise des États-Unis, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, échanger une protection que moi je trouve illusoire contre une emprise. Enfin voilà, donc il y a des choix à faire, et c'est pour ça que moi je suis plutôt optimiste, parce que de toute façon les choix qui seront faits correspondront aux préférences collectives des gens.
Eh bien écoutez, restons sur ce soupçon d'optimisme à la fin de cette... comment dire, pour une conclusion extrêmement provisoire. Et donc, je vous remercie tous les quatre, et je recommande très vivement, Nicole Ignazotto, l'ouvrage qui va être en librairie, je crois. Le 1er octobre, donc la semaine prochaine. Fracture dans l'Occident, comment en est-on arrivé là et comment en sortir? C'est chez Odile Jacob. Frédéric Charillon, c'est aussi dans cette excellente maison d'édition que vous avez publié Géopolitique de l'intimidation, seul face à la guerre, assorti d'un point d'interrogation. Autre point d'interrogation, votre ouvrage, Guillaume Lagan, qui vient de paraître au PUF, Géopolitique de l'Europe, le crépuscule d'une puissance, point d'interrogation. Sylvain Kahn, un autre point d'interrogation, l'atlantisme est-il mort, point d'interrogation, vive l'Europe, point d'exclamation. Voilà, ça c'était aux éditions de l'Aube, associé à la Fondation Jean Jaurès. Je vous remercie tous les quatre à la réalisation. Ce matin, Luc-Jean Reynaud, bien sûr, Ludovic Auger à la technique, Théa Corlaire m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que la documentation de Radio France. Et dans un instant, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.